monde chez vous.
C'est bon de vous avoir sur Life Radio connecté 107.7 aujourd'hui. Bah, c'est tout spécial. Nous ne sommes pas seuls. Nous ramenons tous les jeudis du beau monde chez vous. Et aujourd'hui, nous sommes avec le patron du Texas Grill, un joyau gastronomique, Maxwell Goris, qui est avec nous. Bonjour Maxwell.
Bonjour maman.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Là, attendez que je m'asseye très bien. Ça fait tellement plaisir. Tout le monde l'attendait ici à Life Radio. On disait, ah tiens, tu reçois le patron du Texas Grill. Oh, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est vraiment un modèle, c'est un phénix, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Merci
aussi
beaucoup.
Qui renaît de ses cendres avec tout ce qu'il a vécu. On va parcourir tout ça. Qu'est-ce que ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Vous avez vu la vue là sur la lagune et tout ça. Et du coup, je me permets de donner un tout petit peu le trafic routier parce que ça roule très bien sur le pont. Peut-être qu'il y aura quelques bouchons juste au péage, mais une fois qu'on passe le pont, on passe le péage, tout roule normalement. Alors Max, vous êtes ivoirien, on est sûr. Vous êtes originaire de quelle région de notre belle Côte d'Ivoire?
Je suis originaire de Dabou.
Dabou.
Les Boutous, comme on aime le dire. Voilà.
D'accord, donc c'est Adjoukrou.
Adjoukrou.
Donc vous parlez Adjoukrou.
Je comprends, je t'agivesse un peu.
C'est un Adjoukrou européen, on va dire ça comme ça. Alors, vous avez des frères, des sœurs?
Oui, 14 frères en tout, 12 garçons, 2 filles.
Comment?
Nous sommes 14.
Wow.
Yeah. Le père, il a été...
Ah bah oui, je vois ça. Bonjour papa. Alors, donc, et les parents sont à Abidjan. Avec vous, les parents...
Malheureusement, j'ai perdu mes parents.
Les deux parents.
Ah ouais, les deux parents.
D'accord, mais ils sont très fiers là où ils sont et ils sont tranquilles là où ils sont. En tout cas, vous êtes artiste cuisinier parce que je me posais, je cherchais tellement, je me dis, ce sera quoi la bonne appellation parce que ça suffit pas pour vous honorer comme ça. Même ça, c'est tout petit pour moi. C'est pour ça que j'aime bien patron du Texas Grill.
Ah, okay.
Mais bien avant, vous aviez une vie, vous aviez un travail, j'ai pu dire, qui n'avait rien à voir avec les métiers de bouche. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Je sais que vous voyagez beaucoup.
Je voyageais beaucoup. J'étais consultant avant.
Ouais.
J'étais pour des entreprises asiatiques.
D'accord.
J'étais parti de faire des noix de cajou, cashewnuts, comme on dit, des étudiants aussi et tout, vers la Chine et les Philippines.
Waouh. Bon, en dehors du fait que ce soit...
La Chine, l'Inde et
L'Inde, les Philippines. Bon, en dehors du fait que ce soit le boulot qui vous fasse tant voyager, vous n'étiez pas à tout hasard un petit curieux de la gastronomie de ces pays que vous visitiez?
Je pense que j'ai beaucoup appris, surtout en Inde, de leurs épices. Dès que tout petit, je rentrais en cuisine avec ma maman. Et je pense que tout ce qu'elle m'a. Tout ce qu'elle m'a appris, j'ai eu à tout revisiter une fois que j'étais en Asie avec plusieurs sources et tout. Et donc, moi, ça m'a beaucoup inspiré.
Qu'est-ce que vous mangez généralement quand vous étiez en mission, dites-moi?
J'étais en mission principalement en Afrique.
Ouais.
Donc, Gabon, Kenya, Côte d'Ivoire, Ghana. Donc, je mangeais vraiment de la nourriture africaine.
Ah, voilà. Bon, d'accord.
Mais là-bas, je mangeais tout ce qui pouvait pas. Je découvrais certaines saveurs, il y a beaucoup de choses que j'aimais pas.
Ouais.
Mais j'ai su adapter leur sauce à nos viandes et je pense que ça fait un bon mariage.
Et vous avez fait ce boulot pendant combien de temps?
Pendant 3 années.
Quand même.
Ouais.
Et il s'est passé quoi après?
Après, je sais pas pour quelle raison, mais je devais faire un tour au Gabon.
Oui.
On m'a pas donné le visa parce que j'étais étudiant en même temps.
Ils refusent aussi le visa, les Gabonais. Enfin,
j'avais beaucoup de visas en fait.
Oui.
Mais en tant qu'étudiant, c'était pas normal.
Oui.
Et donc, quand je suis venu, ils m'ont dit de venir prendre le visa en Côte d'Ivoire. Puis en Côte d'Ivoire, j'ai pris le visa. Fait un mois au Gabon, à mon retour, j'ai décidé de tout claquer. Donc, j'ai tout arrêté. Et je savais pas quoi faire, mais j'ai tout arrêté. Parce que j'étais fatigué de voyager. Et j'ai arrêté tout, j'étais en famille.
Bon, tranquillement à réfléchir. Parfois ça arrive, parfois les parents vous disent « Bon écoute, tu réfléchis une année, quand tu te décides, tu me fais signe. » J'ai lu aussi que vous avez vécu aux États-Unis ou parce qu'il faut que je confirme tout ça.
Non, j'ai jamais été aux États-Unis.
On regarde un tout petit peu ce qui se passe sur Internet, on voit, on dit « Vécu aux États-Unis, si ça. » Je dis « Je suis pas très sûr. » Je lui poserai la question et là, on a la véritable réponse.
Ouais, mais pourtant, jamais été aux États-Unis.
Du coup, quand j'ai vu cette information, je commençais à réfléchir. Je dis « Bon, peut-être qu'il a vécu au Texas. »
Non, j'ai été inspiré, je me dis par Dieu.
Ouais.
Parce que j'ai jamais été là-bas, j'ai jamais vu comment ils préparent et tout ça, mais tous ceux qui viennent manger, tous ceux qui viennent là-bas, Ivoiriens, Africains comme Européens, me disent, ouais, t'as fait les États-Unis, c'est pareil que là-bas, c'est meilleur que là-bas. Ah. J'ai dit, bon, j'ai jamais été là-bas.
Bah oui, c'est parce que c'est assez curieux quand même. Vous n'aviez pas fait d'école de cuisine.
Non, jamais.
Et tout le baratin qui va avec. Ouais. Vous êtes auto-formé.
Oui.
Ah bah, expliquez-nous, comment ça se fait? Ah, vous prenez un tel, vous étiez un biologiste, vous faites des mélanges, des mixtures et tout ça, il s'apprend, expliquez-nous.
Moi, j'ai pas compris, je vois pas compris. Je dis peut-être merci à Dieu et merci à ma mère. Parce que avec sa base, la base, moi j'aimais quand même, me faisait les steaks les samedis, c'était jour de steak, on était toujours présents.
Ah, c'était une maman choco, hein, parce que c'était pas du abou diamant ou du choufou, un truc de ce genre.
C'était chaud, mais bon, voilà.
Ouais.
Elle arrive à nous faire plaisir quand même.
Oui, c'est gentil, hein, les mamans.
Elle arrive à nous faire plaisir et ça m'a beaucoup inspiré, je pense bien. Mmh. Et après, quand j'ai goûté d'autres saveurs, maintenant quand j'étais en Asie, j'ai su faire le mariage et puis Dieu merci, les Ivoiriens ont adopté cela.
Mm-hmm.
Et d'autres nationalités ont adopté. Il y a plein de pays qui m'appellent et tout ça. Ben, je pense qu'on va essayer de mieux développer cela. Ouais.
Alors, le dossier Texas Grill.
Yeah.
Vous êtes là un beau matin. Comment cette idée vous apparaît comme ça du coup? Comment ça naît?
Ça naît du fait que je pense que j'étais avec mon ex-fiancée.
D'accord. Bon, bah.
Qui a commencé par un truc
c'est
de.
C'est bien d'en parler quand même, mon ex-fiancée. Au moins, il est reconnaissant.
Qui a commencé par un truc de poulet et poisson.
D'accord.
Et après, je la soutenais, mais pas en cuisine. Moi, je venais juste à la terrasse. C'était devant une boîte de nuit, un bar.
D'accord.
Et après, elle devait partir en France pour une formation parce qu'elle est esthéticienne.
Oui.
Et donc, moi, j'ai repris le truc. Je vais essayer d'appeler ça Houston Grill. Et après, j'ai vu que ça prenait pas bien. Donc, après, j'ai mis Texas Grill. Et voilà. J'ai essayé de créer toute une histoire autour du grill.
Oui.
Amener d'autres choses que le simple poulet poisson, mais mettre plutôt, annuler le poisson. Ils mettent des côtes de porc, des steaks, des burgers.
Mm-hmm.
Du jamais vu sur un fourneau, en fait.
Bah, en fait, ce qui me fait sourire, c'est que vous avez américanisé la chose petit peu. C'est bon, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez déjà foulé le sol américain? Pas encore.
Pas encore.
Bah, ça va se faire assez rapidement.
J'ai jamais mis la pied aux États-Unis. C'est maintenant que ça va se faire.
Bah ouais. Parce que du coup, je me demande, vous êtes un amoureux de la gastronomie américaine, certainement. C'est ce qui a.
Je me dis. En fait, je vais découvrir les burgers.
D'accord.
En Inde, moi j'avais jamais eu de burger ici même parce que ici c'était nous on m'a à checker et tout ça.
Ah bah oui.
Mais là-bas j'ai découvert le burger et quand on est arrivé ici, j'arrivais plus à retrouver. Parce que c'est ça la principale cause pour laquelle je me suis lancé dedans.
D'accord.
Un jour j'ai dit bon je vais faire moi-même le burger et quand je l'ai fait j'étais tellement bon, j'ai fait à la maison, tout le monde a mangé, tout le monde était étonné du résultat. Après les voisins et tout, et puis on a commencé à, j'ai commencé à crier.
Les voisins, ils sont toujours là à sortir. Qu'est-ce qu'ils sont bons à côté.
Oui, j'ai commencé par plein de choses que j'ai commencé à essayer des hot dogs et tout ça.
Wow.
Mais c'est vrai que j'ai vu que ça prenait pas.
Mm-hmm.
Et après, je me suis lancé, dit bon, quand j'ai trouvé mon créneau, c'est-à-dire burger, côte de porc et steak, je me suis lancé. Et après, j'ai commencé à faire venir des travers et autres choses pour voir si ça passait. Tout ce qui passe sur le grill, que ce soit là, même si c'est l'homme, ça passe. J'ai assaisonné ça, en fait.
Ah. Alors, qu'est-ce qui faisait la particularité de votre restaurant? Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui fait le Texas Grill. Qu'est-ce qui fait que les gens, à votre avis, vous avez sûrement eu des retours.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir, viennent manger tout chez vous?
Déjà, c'est que moi, je suis quelqu'un de très simple. Je vais pas me lancer des fleurs.
Ah bah, non, mais vous n'avez pas besoin parce que nous, l'avantage, je vous disais, c'est qu'on fait de la radio, donc on ne nous voit pas vraiment.
Oui,
on
nous
connaît peut-être de nom, mais on ne nous voit pas vraiment. Donc, on a la possibilité de vraiment espionner, de voir que c'est vrai. Et bah, je confirme quoi.
Et c'est, donc, je crois que ça joue un truc vraiment, ça a plu aux clients. De très simple, de très respectueux.
Oui.
J'appelle tout le monde papa, maman. Parce que j'ai été orphelin très tôt.
Oui.
Et ensuite, je pense que me mettre sur un fourneau et braiser à l'extérieur, ça décontenance quand même de certaines personnes qui ne voyaient pas. Là, quand ils ont cassé mon restaurant que j'ai repris à la Riviera, il y a les parents de la Goff qui viennent, qui me donnent 5 000, qui me donnent 10 000 du courage. Pas parce qu'ils sont, ils sont pauvres, mais pas parce que je suis riche. Mais je pense que parce que j'étais peut-être une inspiration pour les enfants. Ils auraient aimé avoir des enfants comme ça aussi qui ne laissent pas tomber, qui s'accrochent.
Ça vous a un peu surpris de voir cet élan de solidarité de la part des Ivoiriens durant cette sombre période de
beaucoup,
votre...
Ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a beaucoup surpris. Parce que, comme vous avez dit, la radio, ils viennent, ils sont incognito. Ouais. Ils viennent pas, ils viennent... Ils nous soutiennent dans le silence, mais le jour que ça s'est arrivé, tout le monde s'est levé ici, comme à l'extérieur, ceux qui ont... J'étais étonné, au fait. J'étais vraiment étonné.
En tout cas, ça a enflammé les réseaux sociaux. Hein. Mais vous vous êtes relevé. C'est ce qui fait votre force. C'est ce qui fait qu'on vous appelle Phoenix. Ouais. Vous êtes relevé comme un phoenix. Vous êtes l'archétype même de la persévérance. Ouais. Hein, parce que c'est à partir de là que les choses, vont vraiment décoller pour vous. Oui. Où on assiste à l'ouverture de plusieurs chaînes, relookées. Alors, c'est quoi pour celui qui est encore gaou, qui peut-être qui se prépare à venir à Abidjan, qui a vu peut-être ce qui se passe à Abidjan, les bons endroits où on mange bien sur Facebook et tout ça. Comment est-ce qu'on décrirait l'ambiance du Texas Gris, là où on s'installe? Est-ce que c'est un lounge? Est-ce qu'on peut dire que c'est un fast-food? Je trouve que fast-food, c'est un peu petit pour
nous.
Nous
sommes différents de... On utilise un menu fast-food.
Oui.
Mais nous sommes vraiment différents du fast-food. Nos viandes ne sont pas surgelées, tout est frais, tout vient de l'usine le matin et on les utilise le soir. Voilà, donc on est différemment. Nous sommes un grill. Et donc quand tout le monde vient, je vois maintenant que je vois qu'on est beaucoup bien référencé. Donc quand tout le monde vient directement, c'est Texas Grill. Et là, on a vu qu'on commence à recevoir beaucoup de clients étrangers. On ne voudrait pas dormir sur nos lauriers. On a commencé à relooker tous les restaurants. Là, Cocody est le prochain. Esprit Lounge, mais toujours à bas prix. On peut bien manger en famille, être rassasié, garder en plus pour le lendemain. Voilà, une cuisine beaucoup très 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 généreuse, je veux dire.
Bah oui, tellement généreuse comme le patron qui est très généreux. Il a un grand cœur.
Merci beaucoup.
Maxwell Goris, qui est le patron du Texas Grill, modèle de réussite. Alors moi la question, bah oui, vous savez pas, mais oui,
on pas
le dit.
Hein.
Si. Avec ce qui s'est passé, comment vous avez ça, c'est vraiment le secret pour ceux peut-être qui se découragent un tout petit peu quand il y a une situation. Comment vous avez réussi à vous relever avec cette... Où est-ce que vous avez puisé cette force? Qu'est-ce qui vous donnait cette force, ce peps là pour dire attends, faut que j'y aille? Vous l'avez puisé où, comment? Comment vous avez fait?
Je veux dire que ce jour-là, j'ai eu beaucoup de colère encore.
Ouais.
Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à revenir. Beaucoup de colère, beaucoup d'orgueil. Mm-hmm. Et quand j'ai vu à la suite tout le soutien que les Ivoiriens avaient m'ont donné, je me suis rendu compte que j'ai fait quelque chose qui a de la valeur. Mm-hmm. La première fois que je faisais quelque chose, je travaillais, je voyageais, j'avais beaucoup d'argent. Et maintenant, moi, c'était insignifiant à mes yeux que j'ai arrêté sans savoir ce que j'allais faire ensuite. Mm-hmm. Mais là, quand j'ai vu que tout le monde s'est levé pour me soutenir, j'ai vu que même si c'est un simple burger, ça représente beaucoup pour tout le monde et que je ne devais pas abandonner. Mmh. Parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose qui avait de la valeur aux yeux des autres, en fait.
Mmh. Voilà. Quoi que vous ayez travaillé, vous avez beaucoup économisé aussi, oui, non? Parce que les gens vont certainement se poser la question de savoir, mais bon, il a travaillé, il a économisé, c'est peut-être ce qu'il a utilisé pour monter son business.
Non, du tout.
Le secret, on veut l'avoir.
Moi, je dis toujours, c'est vrai que les gens rient beaucoup, mais je dis, on peut commencer un business sans argent.
Ouais.
Parce que le business, il était... c'est le patron de la boîte de nuit qui a donné le fourneau pour commencer et la table pour commencer. C'était une simple table, vraiment.
Wow.
C'est une simple table. Et c'est là qu'on a commencé à travailler.
Je crois que c'était à la golf, juste à côté.
Oui, à la golf. Nous sommes juste à côté.
Je crois que je faisais partie des clients.
Donc, on a commencé avec des assiettes même en plastique. Et voilà. Et je pense que quand... On n'a pas besoin de dire non. Quand on dit que tu commençais par zéro, ça dit 5 francs bien, 50 000 francs. Non, même si tu as commencé à 50 000 francs, moi, je pense que c'est zéro. Vous voyez, 10 assiettes, des fourchettes. Vous permettre aux gens de venir s'asseoir pour manger. Mm-hmm. On n'a même pas payé de chaises et tout. Donc, je pense que... Au moins, on peut commencer par zéro. On peut commencer avec beaucoup d'argent. Ça, c'est un business. On peut commencer par zéro. Ça, c'est être un entrepreneur. On ne sait pas comment ça va arriver. Comment ça s'est développé. Et puis, mais c'est la foi et on y tient.
Bah, voilà qui est dit. Maxwell Goris, le patron du Texas Grill, modèle de réussite, je le dis, j'insiste, je le dis, parfait archétype aussi de la persévérance, notre fierté nationale, parce que maintenant c'est un peu comme la référence. Quand vous allez au Maroc, on dit quel pays, que vous dites Didier Drogba, maintenant qu'on dit quel pays, vous direz bah Texas Grill. Ça, c'est Maxwell Goris.
Wow, on va tout faire pour arriver à ce niveau-là.
On va lui permettre de terminer un tout petit peu son café, puis on revient.
Du monde chez vous.
Du beau monde chez vous, hein, nous ramenons du beau monde chez vous, une fierté, quand je le dis, nationale. Le Texas Grill, le patron est avec nous ce matin, Maxwell Goris. Vous en faites pas, c'est un bon là du crew, hein, voilà. Alors, on sait que le Texas Grill est réputé pour sa bonne cuisine et surtout, oh là là, sa bonne viande tendre. Comment vous choisissez votre viande, Maxwell, dites-nous.
Pour choisir les viandes, c'est vraiment que c'est difficile en Côte d'Ivoire parce que on n'a pas, on n'élève pas nos animaux pour le grill véritablement comme dans les pays européens ou bien aux États-Unis.
Oui.
Mais bon, là je suis en partenariat avec plusieurs usines à viande et qui ont des pâturages en Côte d'Ivoire.
D'accord. Ok.
Et là nous on donne mon cahier des charges par rapport à la qualité des viandes que j'attends. Que je veux recevoir, surtout pas de viande importée.
D'accord.
Ouais, voilà. La viande vraiment ivoirienne qui est goûteuse et tout.
Voilà. De made in Côte d'Ivoire.
Yeah.
Voilà qui dit en tout cas. Alors, vos épices, alors ça c'est la totale parce que c'est ce qui fait qu'on sait que ça vient les yeux fermés du Texas Grill. Vous avez un bandeau aux yeux et vous êtes en train de déguster quelque chose. Bon, ça fait un peu romantique, vous me direz. Mais quand vous mangez, vous dites. Ça, c'est du Texas Grill.
Oui, ouais.
Parce qu'il y a quelque chose qui fait que, c'est, on a votre marque, quoi, sur votre viande. Alors, les épices, où est-ce que vous les trouvez, ces épices-là? C'est vrai qu'il y a des secrets, mais bon, où est-ce que vous trouvez vos épices? Il y a quoi dedans pour parler comme nous Ivoiriens?
Je pense que c'est une très belle question. Moi, je pense que rarement j'utilise des épices qui viennent de l'étranger, parce que souvent on est en rupture.
Mm-hmm.
Mais il faut dire que déjà c'est vraiment la conservation des épices qui font que le goût est particulier. Parce
d'accord.
que moi j'utilise beaucoup le poivre. Ça c'est mon épice secrète, le poivre.
Mm.
Alors tu peux aller acheter le poivre au marché, mais c'est ouvert, c'est en vrac, donc toute la saveur reste dans la rue.
Ouais.
Et tu ramènes juste la poudre à la maison. Moi je préfère même acheter même du Ducros, les petites bouteilles, mais bien empaquetées, bien fermées. Qui ont toute la saveur.
Mmh.
C'est ça qui est différent. Donc, quand on mange mes plats, on sent la saveur parce que je choisis des épices qui sont bien conservées, bien empaquetées, bien fermées, pour ne pas prendre des épices en vrac et avoir à surcharger la viande.
Mmh.
Le plus gros, c'est que ce n'est pas vraiment, vraiment, vraiment surcharger la viande d'épices aussi. C'est avoir le goût de la viande en bouche.
Ouais.
Ça, c'est le plus important.
Oh, voilà. Et vous avez, quelle est votre épice préférée?
Le poivre et ça c'est pas une épice mais le sel de mer. Sel de mer gros grain ça permet de
le gros grain même.
Ouais.
Moi qui pensais au fin.
Non. Le fin c'est pour saler vraiment mais le gros grain c'est pour permettre aux épices de bien pénétrer dans la viande.
Oh là là, on a déjà un secret hein. Si vous êtes dans les métiers de bouche, pour vous dire que vous avez eu une formation à zéro copec sur la radio. Ça c'est bien. Ouais. Alors, j'ai aussi entendu dire ah là là, mes oreilles se baladent beaucoup.
Yeah.
J'ai entendu c'est dire que que vous êtes le seul à faire vos mélanges.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Ah, c'était donc vrai alors.
C'est épuisant maintenant en fait. C'est stressant plutôt. Parce que servir près de 500 plats, 500 à 600 couverts par jour dans les différents restaurants et faire là seulement pour ça. Au début, c'était un plaisir quand on avait 20 clients, 30 clients.
Mm-hmm.
Et maintenant, ça devient toute une histoire vraiment physique. C'est vraiment physique de faire des grosses bassines d'assaisonnement et tous les jours.
Près de 500, vous dites 500.
Ouais, 4 restaurants, différents couverts. Donc, ça, on tourne autour de 500 par jour.
500 par jour.
Yeah.
Et vous faites ça tout seul.
Ouais.
Vous ne pensez pas à déléguer, je le dis, avec un petit truc.
Pour moi, je me dis, ça, c'est des sauces, c'est une sauce barbecue.
Ouais.
C'est pas de la cuisine conventionnelle. C'est, la cuisine conventionnelle, c'est prendre du sel, du poivre, mettre sur un steak préparé, servir au client. Mais avoir des sauces secrètes, Ça va se passer de famille en famille, je pense. Et ce que je délègue à mes employés, je leur délègue déjà la motivation. Mm-hmm. Je leur délègue, je leur parle, je leur donne des conseils et toujours. C'est-à-dire préparer à ouvrir leur propre restaurant, bien à rentrer dans leur rêve. Je délègue aussi la manière de braiser, parce que ça, c'est vraiment important. Il faut savoir braiser. Donc, je leur montre comment braiser et eux, à eux de découvrir eux-mêmes leurs propres sauces, leurs propres épices. Ou quand ils vont ouvrir le restaurant, ils soient prêts. Pour ne pas qu'ils soient une copie de Texas.
Enfin, vous accompagnez à la créativité, vous les aidez dans leur créativité.
C'est ça.
J'aime bien, je délègue la motivation. Je peux vous dire que je veux des conseils, moi, pour comment vous faites pour déléguer de la motivation.
Mais voilà.
Avec vos gars, comment ça se passe? Comment vous déléguez cette motivation?
Déjà, je suis un exemple pour eux.
Oui.
Un exemple d'une personne qui n'abandonne jamais, qui tient ses paroles. Quand je dis je veux ouvrir ici, j'ouvre. Je l'ai dit ça tous les jours. Je dis, écoutez-moi, quand moi je dis je veux faire, je le fais.
Ouais.
Et alors, soyez des personnes de parole. Et quand vous venez travailler, au lieu de faire des histoires entre vous, apprenez à être les meilleurs. Parce que quand vous devez quitter mon restaurant, il faut que moi j'ai peur de vous.
Oh,
et si j'ai pas peur de vous, c'est que vous avez passé votre temps à ne rien faire.
Oh là là. Les Américains diraient, what a wonderful. Ah, mais ça, c'est bien dit. Ah, ça, c'est bien dit.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, avec tout ça, comment est-ce qu'on peut pas parler, on ne peut pas parler de fierté nationale, quand même? Aujourd'hui, la famille du Texas Grill s'est agrandie.
Ouais.
On compte 4 restaurants, c'est
quatre
ça? 4 restaurants.
Ouais.
Pourquoi est-ce que je vois 10? Ça veut dire que ça va se faire très bientôt. Donc, 4 restaurants. On a Cocody, c'est ça?
Nous avons 2 à Cocody.
2 à Cocody.
Ouais, Riviera et Cocody Centre.
Cocody Centre.
Un à Yopougon.
Oui.
Ouais, qui a été une vraie épreuve parce que les gens disaient qu'on m'a beaucoup découragé.
Ouais.
Et je suis arrivé à Yopougon, j'étais étonné de voir le résultat. Il est magnifique.
Yopougon, quel côté?
Maroc.
Yopougon,
ouais.
Maroc, ouais.
Il travaille en plein régime là-bas.
Mm-hmm.
Et aussi zone 4 qui vient d'ouvrir. On a été inondé hier.
Oulala. Avec cette pluie.
Ouais. Mais c'est tout ça, c'est les épreuves d'un entrepreneur.
Bah oui.
Et on va rebondir rapidement.
Bah la pluie, c'est pas que avec vous, on lâche pas l'affaire quoi.
On lâche jamais.
Ça se passe pas comme ça.
Yeah.
Et est-ce que chaque site a sa particularité, sa spécialité? Par exemple, à Yopougon, je le dis en rigolant, je dis quand on ouvre à Yopougon, peut-être que la touche de Yopougon, c'est la spécialité, le porc.
Ouais.
Parce que au Porco, là-bas, à Yopougon, il y a beaucoup de porcs. Hein. Donc, est-ce qu'il y a ce petit truc-là dans chaque Texas Grill?
Je pense que c'est vraiment une vue de l'esprit parce qu'à Yopougon, ils mangent plus de steak, même de filet de bœuf.
Ah bah dis
donc, non, mais
il faut le redire à Yopougon, attendez, à ceux qui prennent
des
petits tiens pour des gars ou des
Yopougon mangent
juste steak. Hein.
Ils mangent plus de steak que même de porc. Ouais.
Oh là là,
ouais.
Bon bah d'accord. Okay.
Je pense que le porc même le vend plus à Cocody.
Oh là là, elle est bonne celle-là. Et du côté de zone 4, qu'est-ce qui est beaucoup demandé? J'allais
4,
poser la question.
Je pense qu'ils attendent encore plus. Parce qu'on est parti sur le même style de nourriture que dans les autres restaurants. Après, je vois que la clientèle là-bas demande d'autres choses. Donc, on va faire. D'ici la semaine prochaine, on va arriver avec un nouveau menu, même là-bas,
dire qu'on est zone 4. Donc, au niveau de Cocody et au niveau du Yopougon, c'est sensiblement les mêmes menus.
C'est le même menu. Le même menu à Cocody et à Yopougon.
Mm-hmm.
Même menu aussi en zone 4. Mais là, on va ajouter maintenant plus des entrecôtes et plein d'autres choses.
D'accord.
Des viandes vraiment à faire baver, quoi.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui sort beaucoup dans les restaurants, dans les restos?
Le travail de porc, c'est le meilleur au monde.
Ah.
Le travail de porc de Texas Grill, c'est le meilleur au monde.
Aïe, ça fait une belle signature, ça. Et du coup, je sais pas, je l'ouvre la bouche, je sais pas vous, mais bon. Bon, on va se contenter. Alors, Texas Grill, c'est à peu près combien de jeunes embauchés? Parce que c'est ça aussi, vous êtes un jeune ivoirien, un jeune entrepreneur ivoirien, vous cuisinez avec des produits ivoiriens et vous embauchez aussi les Ivoiriens. Ceux qui veulent aussi venir pour la formation, c'est pas fermé. On a à peu près combien de personnel?
Nous sommes autour de 136.
Ouais.
Et je pense qu'on a pris des stagiaires du gouvernement, de l'emploi jeune et tout ça.
Oui, ah, c'est bien.
Et donc, en tant qu'entrepreneur aussi, il faut beaucoup se renseigner auprès des structures gouvernementales pour avoir. Parce que souvent, on a des difficultés, alors qu'on ne prend pas la bonne information.
Mmh.
Et donc, il faut aller vers l'emploi jeune ou bien aller vers Côte d'Ivoire PME, c'est le truc qui accompagne les entrepreneurs. Ouais. Là, ils nous donnent, nous ont donné, je pense, 30 stagiaires qu'eux-mêmes, ils payent. Donc, ils sont parmi, ils payent à moitié.
Ouais.
Donc, ils sont parmi nos employés.
Ah, mais ça, c'est super, voilà. Ça.
Donc, c'est une très, très grosse aide que le gouvernement nous fait.
Mmh. Voilà. Alors, j'allais poser la question au niveau de la formation. Comment ça se passe quand vous recrutez le personnel pour le TESAS Gris? Parce que j'avoue que je suis bluffée, moi, à chaque fois que je vais dans un établissement TESAS Gris, c'est des personnes sympas qui savent vous blaguer pour vous faire attendre, pour vous faire patienter, qui savent s'excuser. Alors, tout le dispositif de formation, c'est vous qui gérez, c'est vous qui formez ces personnes-là?
Nous n'avons pas une industrie touristique vraiment développée, comme le Sénégal, le Kenya et autres, qui ont toute une industrie, ils reçoivent beaucoup de tourisme. Mm-hmm. Nous, on reçoit beaucoup d'hommes d'affaires.
Ouais.
Et donc, pour cela, moi, je fais venir des gens de France, je fais venir des gens, là, je fais, mon manager de Riviera vient du Gabon, et donc, qui viennent former à l'accueil, qui viennent former à la réactivité des employés, des serveurs, parce que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais c'est pas impossible.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, quand on les prend, ils sont vraiment, ils ne donnent pas le résultat escompté, mais à force de parler, de répéter à chaque fois, je pense qu'ils commencent à entrer dans le moule et puis à voir, parce que vu que nous, on veut sortir du pays. On veut avoir nos premières franchises.
Donc,
on est en train de créer tout le process. Alors, mettre ça sur place. Donc, ça passe aussi par la formation des employés. Qu'ils aient un process vraiment qu'on peut dupliquer à l'extérieur.
Voilà. Bah justement, vous en parliez, ça permet d'ouvrir en même temps les projets pour TESAS Gris.
Yeah.
Donc, c'est franchise à l'extérieur, carrément. Yeah. À l'intérieur, déjà, avant de sortir carrément de la Côte d'Ivoire, il y a des projets pour des TESAS Gris.
Oui, mais nous allons sortir d'abord avant de venir à l'intérieur.
À l'intérieur.
Oui, nous allons sortir dans les pays limitrophes.
Oui.
Et puis revenir maintenant sur... Normalement, c'était Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro.
Ouais.
Mais avec la côtière, je pense qu'on va commencer par San Pedro.
San Pedro.
Revenir sur Yamoussoukro et Bouaké.
Ah. Et voilà. Quand on sort, puisqu'on va sortir avant de venir à l'intérieur, quels sont ces pays-là déjà qui vont accueillir la franchise?
Nous sommes en train de lorgner vers le...
Ah, j'aime bien ça. Quoique lorgner, c'est aussi un nom à du crew. Hein.
Nous sommes de lorgner vers Dakar.
D'accord.
Et vers Ouaga. Ouaga, il y a des gens qui viennent des États-Unis même, qui sont des ressortissants du Burkina, qui viennent me voir pour la franchise depuis l'année passée. Je leur ai dit que notre processus n'était pas encore prêt.
D'accord.
Notre process n'est pas encore prêt pour être dupliqué. Voilà.
Bon.
Donc c'est maintenant qu'on va y travailler.
Bah. Bah, en tout cas, c'est de très bonnes nouvelles qui s'annoncent. La dernière question que j'allais vous poser. Alors on a déjà fini notre entretien. Oh, bah, j'ai tellement d'autres questions qu'il faut mise. On s'arrête pas avec vous. Si on doit continuer, on fera peut-être 4 heures d'antenne. Ouais. Alors, il y a beaucoup de jeunes aussi qui souhaitent être comme vous, qui souhaitent réussir, qui souhaitent qui se battent aussi. Moi, c'est votre conseil à l'endroit de ces jeunes-là, ces jeunes entrepreneurs qui sont sur le marché, qui se battent comme il faut pour pouvoir réussir. Votre message à l'endroit de ces jeunes.
Bon, cela dit d'être beaucoup discipliné, parce que la passion. Ça donne du peps au début, mais c'est la discipline qui nous fait arriver où nous sommes.
Ah,
voilà, la discipline, c'est la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, pour ne pas se rater. Et ensuite, croire en ses rêves, savoir s'entraîner, il faut toujours s'entraîner parce que le jour que tu baisses la main, on vient te dépasser, on vient te passer. Et donc, il faut croire en ses rêves, il faut se donner de la valeur, il faut connaître sa valeur. Parce que c'est quand tu connais ta valeur que... il faudrait que tu connaisses ta valeur avant tout le monde pour que tu puisses avoir de la valeur aux yeux des gens. Par exemple, moi, je suis là sur mon petit fourneau. J'ai commencé à travailler chez les ministres, chez les ambassadeurs, même chez l'ambassadeur de France. Et tout ça, c'est parce que je me suis donné un nom. Et ce nom-là se construit. Voilà. Donc, si l'ambassadeur de France vient prendre TESAS Gris pour aller parler sur lui, c'est parce qu'il a entendu ça quelque part, en fait. Voilà. Donc, il faudrait que ton nom parle pour toi. Et pour que ton nom parle pour toi, il faut qu'il soit très fort.
Ouais.
Très fort mentalement et puis très fort dans ce que tu fais.
Ouais. Voilà. Ben voilà, c'est sur cette belle note. Merci beaucoup, Maxwell Goris. On apprend beaucoup avec vous. Merci d'avoir accepté. Vaille que vaille.
C'est un plaisir de toujours être dans vos murs. C'est un plaisir.
Et ce n'est que partie remise, hein, parce que forcément, on se reverra. Okay. Merci beaucoup
d'être venu.
Et puis, bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Et puis, on a hâte d'être à l'ouverture de ces différentes franchises pour aller dans ces pays-là et dire « Ah, Texas Gris, c'est un Ivoirien qui a la base. Oh, » comme on dit. La bouche d'Ivoirien. Voilà. Bon retour chez
Merci
vous.
Merci beaucoup. Maman.
Life Radio, Mogo, puissant, il en est un, Maxwell Wall Gris. C'est Fanico et Léonie sur la radio.
Du monde chez vous. Life Radio 107.7. La radio comme tu l'entends.